Les Déambulations de Blandine, un podcast pour déambuler librement entre art et création. Une réalisation de monstudio.tv.
Dans la collection de Caco, il y a énormément d'œuvres absolument passionnantes qui n'ont pas forcément d'auteur. Et parmi ces peintures, il y a beaucoup de peintures du XVIIe, souvent XVIIe italien, mais pas toujours, on va le voir tout de suite, qui sont des suiveurs de Caravage. Par exemple, il y a une très 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 belle œuvre qui est Jésus parmi les docteurs, qui est donnée à ce qu'on appelle le maître de l'adoration des bergers. On l'appelle comme ça parce qu'on a réuni 3-4 œuvres autour de lui, on ne sait toujours pas qui c'est, on n'a toujours pas trouvé. Et donc là, je vais vous parler de 3 tableaux achetés par Caco, où nous n'en savons strictement rien, qui n'étaient tous les 3 pas donnés au même peintre Georges de la Tour, qui était donné à Murillo, à Segers, ou même à un anonyme flamand, qui aujourd'hui sont présentés sur le même mur et qui sont tous les 3 donnés à Georges de la Tour. Quand je suis arrivée à Nantes, tout à fait par hasard, j'avais les oreilles qui traînaient et j'entends un gamin dire qu'il est au collège Georges de la Tour. Et son voisin lui dit « Ah, parce que toi, tu connais Georges ?» De fait, depuis, je pense qu'ils sont venus au musée et qu'ils ont compris qu'on ne donnait pas forcément le nom du concierge d'à côté au collège, mais qu'on préférait donner un nom d'artiste. Alors, Georges de la Tour est un artiste très intéressant parce que c'est un artiste qui a été très célèbre en son temps et qui a disparu, mais complètement des radars, absolument. Au point que les 3 tableaux, puisqu'il y a 3 Georges de la Tour au musée des Beaux-Arts de Nantes, ce qui est assez rare, ne sont pas du tout rentrés comme des Georges de la Tour. Il a fallu attendre un petit moment, je vais vous raconter, parce que je trouve que c'est assez caractéristique de ce qu'est l'histoire de l'art. À Nancy, parce qu'il est originaire de Lorraine. À Nancy, un historien travaille sur des archives, et au milieu du 19e, en 1863, il trouve une petite notice d'un abbé racontant en 4 lignes qu'il y a un artiste célèbre, Georges de la Tour, qui a travaillé pour le duc de Lorraine. Bon, comme il fait un répertoire des artistes de Lorraine, voilà notre Latour qui ressort. Puis il ne se passe rien de particulier. Et puis il se trouve que un historien d'art allemand, Hermann Voss, en visite en France, fait 2 musées, coup sur coup, le musée de Nantes puis le musée de Rennes. Et au musée de Nantes, il voit que un tableau qui l'intrigue, qui est un beau tableau, est signé Georges de la Tour. Et en passant à Rennes, il se dit « Ah, ce tableau ressemble quand même fortement à ce que je viens de voir. » Malheureusement, c'est en pleine guerre. En 1915, il va écrire un papier, en plus dans une revue allemande, autant vous dire que nous ne lisions pas ce genre de choses, faisant le rapprochement du nouveau-né de Rennes et de l'ange et Saint-Joseph de Nantes. C'est extrêmement important parce que finalement, et malgré tout, cet article va finir par être lu. Et dans les années 30, les Français redécouvrent Caravage, redécouvrent le réalisme, et une très grosse exposition au musée du Jeu de Paume. Il faut vous dire quand même qu'on ne faisait pas encore des expositions. C'était vraiment une nouveauté que de faire des expositions, que d'aller chercher des tableaux dans différents lieux pour les réunir. Ça nous semble très très banal aujourd'hui, mais avant, non, les œuvres restaient là où elles étaient, on ne les transportait pas pour une exposition. Mais là, au Jeu de Paume, une exposition qui fait date, qui s'intitule « Les peintres de la réalité », va réunir un certain nombre d'artistes du XVIIe français, dont les frères Lenain, qui vont eux aussi devenir célèbres, et Georges de la Tour. Et du coup, ça y est, Georges de la Tour commence à exciter tout le monde. On se rend compte que ces nocturnes vont avoir une influence considérable sur les artistes contemporains qui vont découvrir Georges de la Tour, et on commence à travailler beaucoup dessus et on se rend compte que Georges de la Tour, parce qu'on découvre aussi d'autres tableaux signés, n'est pas qu'un peintre de nocturne, mais aussi un peintre diurne. Alors, ça n'arrêtera pas le succès de Georges de la Tour, puisque après ça, il va y avoir une très grande rétrospective en 72. Les grands historiens d'art, comme Pierre Rosenberg, peut-être que vous voyez qui est ce monsieur avec l'écharpe rouge qui a dirigé le Louvre pendant un long moment, écrit sur Georges de la Tour. Et puis, une dernière rétrospective, la plus récente, à la fin des années 90, 97, 98, et on montre l'importance de cet artiste. Alors, qui était-il ? Eh bien, bon, il naît dans un petit village qui aujourd'hui a un musée, Georges Georges de la Tour, parce que l'historien Jacques Tuillier, qui a beaucoup travaillé sur lui, a donné sa collection à Vic-sur-Seille, vraiment petit village de Lorraine, mais qui a un très beau Georges de la Tour. Il naît à Vic-sur-Seille. Vic-sur-Seille est à côté de Lunéville. Lunéville qui a été, pendant très longtemps quand même, le palais du duc de Lorraine, de Stanislas. Et donc, il était fils de boulanger, mais il est assez bien formé, parce qu'il a une petite école, en fait, à Nancy. Et il va travailler pour le duc de Lorraine. Puis, c'est la guerre de 30 ans. C'est une guerre terrible. Vous connaissez peut-être les gravures de Callot, où on voit ses pendus sur les arbres, etc. C'est vraiment une guerre fratricide. Et il préfère partir à la cour du roi de France. Il va servir Louis XIII et il va peintre du roi. C'est quand même pas tout à fait rien, peintre de Louis XIII, au point que Louis XIII lui achète un Saint-Sébastien. Il fait enlever tous les tableaux qu'il a dans sa chambre pour ne garder que celui-là. C'est un Saint-Sébastien soigné par Irène, dont on connaît plusieurs versions. Voilà. Et puis finalement, il va quand même rentrer à Lunéville, il préfère être à Lunéville, et il finit sa vie à Lunéville, où il va mourir d'une épidémie. Il a donc été célèbre de son temps. On a quelques écrits, parce que depuis, tout le monde a beaucoup travaillé sur les archives, on a trouvé quelques écrits. On sait que c'était un homme peu aimable, brutal. Il avait des chiens qu'il lançait sur les mendiants, mais il reste un très grand peintre. Alors, que peut-on dire des œuvres que vous pourrez voir bientôt, très bientôt, au musée, qui sont exposées en permanence dans la salle des Caravagesques? Pourquoi Caravagesque d'ailleurs? En fait, il n'est jamais allé en Italie. Donc, il pouvait avoir vu un Caravage qu'il y avait à Nancy, qui avait été commandé par le duc de Lorraine. Magnifique Assomption avec un ange absolument formidable qui a une ceinture brodée magnifique. Et puis, il a sûrement vu les caravagesques nordiques. Parce que, bon, la Lorraine est assez proche de la Belgique, Onthorst, Terbruggen, il les a sûrement vus. Et c'est sans doute comme ça qu'il a oscillé entre des nocturnes et des diurnes. Et puis, il y a un tableau diurne que vous connaissez peut-être, qui est assez connu, qui est au Louvre, qui est le Tricheur, qui est un des grands tableaux du Louvre. Alors, les tableaux que Caco achète, il les achète parce qu'il y a un certain sentiment très profond, une espèce de vérisme, un goût de la nature, tout à fait étonnant, nature que Caco a toujours prôné comme base de ce que devait connaître un artiste. Et le tableau d'urne qui est conservé au musée des Beaux-Arts de Nantes est un vielleur tout à fait étonnant. Il est fait alors que Georges de la Tour est déjà un peintre reconnu, il est déjà à la cour de Lunéville. Alors d'abord, il est rentré, il faut dire que dès le départ, on considère que c'est un tableau magnifique. On l'attribue à un Espagnol, à l'école d'Espagnol à Murillo. Et pendant des années, il ne retrouvera pas le nom de Georges de la Tour. Ce n'est que dans les années 30 qu'on va lui donner ce... On va le réattribuer à Georges de la Tour. Alors, ce vielleur, c'est un vieillard qui n'a plus de dents, qui, en revanche, a encore un très beau costume. Si on regarde bien, c'est tout à fait étonnant. Il a un petit col brodé. Il a des chausses en laine. Il a à sa vielle un très joli petit ruban rose. Bref, c'est assez étonnant. Il y a un contraste terrible entre la figure du vieillard, qui est une figure... je vais vous lire un tout petit texte de Stendhal, vous comprendrez. Et puis, à la fois, la délicatesse d'abord des coloris. On est dans un camaïeu de gris, de beige, tout à fait remarquable. Le cri du chanteur est assez étonnant. Au premier plan, un chapeau rouge avec une grande plume. Alors, était-ce quelqu'un qui, de par la guerre, avait perdu tous ses biens? On ne peut pas savoir. Mais toujours est-il que ça n'est pas, au sens étroit du terme, un mendiant. C'est vraiment autre chose. Alors, cette tête de mendiant absolument terrible a fait écrire, des tas de gens ont écrit dessus. D'ailleurs, il y en a certains qui ont dit que c'était un tableau absolument repoussant, en particulier Gracq détestait ce tableau. Mais Stendhal dit « Vieillard jouant de la vieille, ignoble et effroyable vérité, tableau espagnol attribué à Murillo, ça l'était encore quand Stendhal visite le musée, il n'est pas sans grand mérite, coloris sage, expression vraie, il provient du musée de Napoléon, était-il de Velázquez, ou à son début, lorsqu'il l'utilisait et il peignait des sujets vulgaires. » Voilà, ça c'est le premier tableau, qui est un tableau qui est assez, pour utiliser un terme très contemporain, scotchant de par son réalisme et sa présence. Autre tableau, qui est un tableau de la fin, les deux autres tableaux sont des nocturnes qui sont de la fin de la carrière de Georges de la Tour. Il y a d'une part le reniement de Saint-Pierre, sujet assez difficile, au premier plan toute une série de soldats qui sont en train de se partager, ils jouent au dé, la tunique du Christ, et puis à l'arrière, un personnage vieillard qui écoute une jeune femme Et en fait, on sait que le reniement de Saint-Pierre, Saint-Pierre était un ami du Christ, et il va dire qu'il ne l'a jamais connu, à un moment où le coq va chanter trois fois, et il saura ensuite que c'était pas très élégant de renier comme ça son ami le Christ. Voilà. Donc le reniement de Saint-Pierre, lui, était donné à une école flamande. On passe de l'Espagne à la Flandre, c'est une nocturne, et ce qui est très beau dans ce tableau, ce sont les éclairages faits à la bougie. Tout est fait à la bougie. Donc, la bougie qui éclaire ces visages, on est dans une pénombre complète, il n'y a que quelques visages qu'on voit, celui d'un des soldats qui est heureux, il a sûrement gagné quelque chose, et puis, dans le fond, à gauche, en haut, la servante et Saint-Pierre en train de discuter, le visage très gêné, Saint-Pierre est relativement, j'ai envie de dire, réaliste. Mais le chef-d'œuvre, admiré par pratiquement tous les visiteurs, est l'apparition de l'ange à Saint-Joseph. Alors, d'abord, quand on regarde ce tableau, qui est une nocturne, où c'est de la lumière, de la bougie qui donne tout le volume et tout le sentiment de rêve de ce tableau, parce que c'est un tableau qui inspire le rêve, ça n'est pas, au départ, ce n'est pas forcément un sujet religieux. C'est tout d'abord un vieillard et un enfant. Et le vieillard est très réaliste, il est en train de dormir, il a la tête appuyée, et on a l'impression que l'enfant vient le réveiller. Dire que c'est un ange, pourquoi pas, il n'a pas ses plumes dans le dos, il n'a rien, c'est vraiment un enfant qui a magnifique ceinture. C'est un des caractéristiques, d'ailleurs, c'est drôle, de la peinture 17e. Il y a certains détails comme ça qu'il faut regarder avec attention. Et puis, cette bougie que cache le bras droit de l'enfant et qui éclaire son profil. Alors, c'est vraiment une œuvre qui est à la fois très silencieuse et très mystérieuse. Et on peut tout à fait rentrer à l'intérieur de cette scène et partager l'émotion que va être celle de Joseph quand il va voir cet enfant qui va lui apprendre un certain nombre de choses. Ce tableau n'était pas attribué, bien sûr, à la tour, et cependant, ce tableau était signé. Il était signé la tour. Et donc, c'est grâce à ce tableau, en le mettant en comparaison avec le nouveau-né que je vous invite à aller voir à Rennes, dès que les musées rouvriront, que Hermann Voss a pu se dire que nous avions là devant nous un très grand artiste, alors en français. La Lorraine n'était pas encore française quand Georges de la Tour était vivant.